Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, merci. Hey Simon, à Montréal, on est en train de changer un peu le quatrième trio avec l'arrivée de Nate Thompson puis de Dale Weiss. C'est quoi ton évaluation d'un quatrième trio dans la Ligue nationale? Et là, comprends-moi bien, puis j'espère que les auditeurs me comprennent bien. Je suis pas en train de banaliser le quatrième trio puis dire que c'est pas important, là. Mais c'est quoi, toi, le genre de joueur que tu voudrais voir sur ton quatrième trio idéal? Tiens, je vais dire ça comme ça.
Ben là, dans le hockey de nos jours, le quatrième trio doit être capable de jouer en 7 et même 15 minutes par match. Connaissant Claude Julien, puis j'ai joué à Boston à la fin de ma carrière. J'ai utilisé vraiment des fois sur un troisième et quatrième trio. Puis son quatrième trio, Claude, il veut des gars qui ont de l'expérience, des vétérans, des gars qui peuvent embarquer sur la glace, même contre la première ligne s'il faut. Puis il sait que quand ils vont embarquer sur la glace, ils seront pas marqués de but. Puis si on regarde le quatrième trio du Canadien, dans les derniers matchs, ils sont fait marquer un, des fois deux buts par match. Puis ça, connaissant Claude, il aime pas ça. Il veut des gars qui soient capables d'embarquer sur la glace, leur faire confiance. Il s'attend pas à ce que le quatrième trio ait marqué des buts, mais il s'attend à ce que le quatrième trio s'en fasse pas marquer, qu'il joue bien en zone défensive, qu'il soit capable de passer un petit peu de temps dans la zone offensive, puis d'emmener un petit peu d'énergie à l'équipe. Fait que pour le Canadien de Montréal, je suis pas surpris que le Canadien ait été chercher un gars d'expérience comme Nate Thompson, Dale Weiss, qui connaît un peu le marché à Montréal, des gars d'expérience, des vétérans, si on peut dire, qui marquera peut-être pas des buts pour le Canadien, mais qui va faire du bon travail défensivement. Fait que je suis pas surpris de voir le Canadien avoir bougé là pour améliorer leur quatrième trio avec l'expérience. Parce que dernièrement, là, j'ai remarqué que le quatrième trio du Canadien faisait marquer beaucoup de buts, tandis que les premiers, deuxième, troisième trio se faisaient pas marquer de buts contre eux. Alors, pas surpris de ça.
OK. C'est drôle que tu parles de Claude Julien, parce que c'est Marc Bergevin qui a fait les transactions, mais tout de suite, ton réflexe, c'est de penser à Claude Julien, l'entraîneur-chef. Qu'est-ce que lui a besoin? Puis je comprends très bien ta façon de voir ça. Puis ça m'amène à te parler de mon collègue Will, que tu connais très bien. Will, il me dit hier... Dan, il dit, c'est pas compliqué. Il dit, Thompson, Weiss, puis Delaurier. Il dit, c'est Claude Julien qui dirige. Il dit, ramène-toi à Boston dans les grosses années, là, l'année de la Coupe, puis les grosses années des Bruins. Là. Le quatrième trio, c'était Sean Thornton avec Payet puis Gregory Campbell. Il dit, c'est un peu le même genre de quatrième trio.
Exact, exact. Puis j'ai goûté un petit peu à ça sur le Thompson. Thornton était plus là, c'était Campbell puis Payet, puis moi je jouais avec eux autres des fois à l'aile gauche, puis c'est ça, tu sais, puis même moi, tu sais, je pars d'un rôle offensif, je m'en vais jouer avec eux autres, on passait à ligne rouge, là, c'était pas un 3 contre 2, un 3 contre 1, là, c'était dans le fond, là, puis eux autres n'essayaient pas d'aller scorer, puis moi je trouvais ça plate, je trouvais ça frustrant, mais eux autres, c'est leur job, ils savaient que c'est le même que Claude voulait qu'ils jouent, puis notre job, c'est ça, c'est pas se faire scorer, que le puck soit dans le fond le plus possible, qu'on dérange un peu l'adversaire puis qu'on vient de changer après. Notre job, c'était vraiment là de pas essayer d'aller scorer un but, c'est de pas se faire scorer de but, mais qui peut nous utiliser en fin de match, face-off dans la zone défensive, puis c'est des vétérans, il y a confiance à ces vétérans. Puis exactement, oui, c'est Bergevin qui a fait les échanges, mais je suis persuadé que tu sais un bon GM va aller parler à son coach, il va dire, hey, qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin sur le quatrième trio? Là, on le voit que présentement, ben le quatrième trio de la misère se fait scorer des buts. Tu sais, ça l'enlève du momentum. Quand ton quatrième trio sur la glace, puis il joue juste 7-8 minutes, puis c'est moins 2 à la fin de la game, pour les joueurs qui sont sur la glace du quatrième trio, c'est pas bon. Puis je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose pour ce quatrième trio-là, puis je suis pas surpris de ça.
Simon, les Blues de Saint-Louis ont gagné leurs 7 derniers matchs. Si les séries débutaient ce soir, ils seraient qualifiés pour les séries. À l'inverse, l'Avalanche du Colorado a perdu ses 8 derniers et n'a gagné que 3 de ses 21 derniers matchs. Comment t'expliques ça dans une saison de hockey de la Ligue nationale de 82 matchs, avec sensiblement les mêmes joueurs, mis à part l'arrivée du jeune Binnington devant le filet des Blues? Comment une équipe peut changer bout pour bout, comme on disait avec des chums autour d'un diète Pepsi, bout pour bout une équipe qui se met à perdre tout le temps? Puis à l'inverse, les Blues qui gagnent tout le temps.
Ah, c'est quasiment dur à expliquer. Un, qu'est-ce qui se passe dans la conférence de l'Ouest, J'ai rarement vu ça. Même les Kings de Los Angeles, s'ils se mettent à gagner 10 games de suite, peuvent remonter dans les séries. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe du côté de l'Ouest. Mais du côté des Blues de Saint-Louis, tu sais, ça prend pas grand-chose. Eux autres, là, de pas partir sur une séquence victorieuse comme qu'ils font présentement, eux autres sont quasiment sortis des séries, mais ils sont mis à gagner des matchs et matchs et matchs, puis la confiance embarque. Puis présentement, j'ai écouté les joueurs parler, ils croient en leurs moyens, ils se battent pour leur vie, si on peut dire, match après match, c'est comme un match de série. Puis une équipe qui rentre comme ça en série peut être vraiment dangereuse. Ça pourrait être une équipe là qui se classe huitième, puis je serais même pas surpris qu'il sort le premier de la conférence en première ronde. Tu sais, ça pourrait être aussi dangereux, l'équipe qui va les rencontrer. Si Saint-Louis se classe, ça va être une équipe qui va être très, très dangereuse. Puis on l'a vu dans le passé. Moi, je l'ai vécu avec les Flyers, avec les Kings. On rentre huitième, puis on se rend en finale de la Coupe Stanley. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à expliquer, mais quand c'est là, puis ils sont capables de garder ça jusqu'à la fin puis rentrer dans les séries avec ça, ça va être une équipe qui va être pleine de confiance puis qui va être très dangereuse en première ronde.
Est-ce que quand tu gagnes, automatiquement, dans le vestiaire, tout le monde a du fun, puis à l'inverse, quand tu perds, tu te dis, voyons, calé, qu'on trouve tout le temps une façon de perdre. Ça va bien mal, notre affaire.
Ah oui, ben tu viens de le résumer exactement. Tu sais, quand tu gagnes, c'est tout le monde a du fun, c'est le fun de jouer au hockey, c'est le fun de venir à l'aréna, c'est le fun de venir aux pratiques le lendemain, mais quand tu perds, là, le lendemain, aller à la pratique, à l'aréna de pratique, le coach fait la baboune, il dit pas salut, tu sais, quand tu gagnes, ben, le coach, hey, salut les boys, ça va bien. Quand tu perds, le coach, il dit pas salut, là. Il regarde ses pieds, il te regarde pas, il fait sa face de baboune. C'est pas le fun de venir à l'aréna. Mais en même temps, une équipe qui perd, doit essayer de trouver le moyen de regagner rapidement. Puis tu sais, comme que je viens de dire tantôt, dans l'Ouest, même l'Avalanche du Colorado, même s'ils gagnent pas dernièrement, ils peuvent se remettre à gagner une game, deux games, trois games de suite, puis ils se remettent quasiment dans le portrait des séries. Alors, c'est pas perdu. Fait qu'au moins, il y a de la confiance de ce côté-là pour les équipes qui sont dans la conférence de l'Ouest. Là.
OK. Des gros noms actuellement qui sont sur la liste des joueurs potentiellement échangeables. Je pense à Panarin, je pense à Bobrovsky, je pense à Mark Stone et Matt Duchesne avec Ottawa. Huberdeau, en début de semaine, son nom a été ajouté à cette liste-là. C'est quoi la réalité, Simon? T'en as été un joueur vedette dans la Ligue nationale. D'ici le 25 février, je sais qu'il y a des listes de non-mouvements, puis il y a des équipes où les gars veulent pas aller, mais c'est quoi la réalité? C'est-tu le DG qui va avoir le pouvoir sur ce joueur-là ou l'agent emmène très, très large?
Ben là, ça dépend. Là. Tu sais, comme tu viens de dire, il y a plusieurs clauses de non-échange, clauses de non-mouvement dans un contrat. Si le joueur a ça, ben c'est beaucoup plus difficile pour le GM de l'échanger. Il faut que tu commences à parler à l'agent, puis après ça au joueur, voir si le joueur est disponible à lever sa clause de non-mouvement au complet pour qu'il puisse échanger aux 31 équipes. Sinon, ben le joueur fait une liste de X nombre d'équipes. C'est déjà dur de faire un échange maintenant dans la Ligue nationale. Puis si tu menottes le GM, tu peux dire à 5 équipes, ben et ça va être difficile pour le GM de faire un échange. Puis on le sait, ben le GM ne t'échangera pas contre n'importe quoi non plus. Là, t'sais, il va le voir des jeunes joueurs, des choix de repêchage. C'est vraiment difficile maintenant de faire des échanges pour un GM à cause de ça. Mais si le joueur n'a pas de clause de non-échange, je pense que le GM est capable de faire quelque chose de bien. Mais même à ça, aujourd'hui, c'est difficile de faire des échanges. Puis moi, je m'attends à ce que... Tu sais, oui, il y a plein de rumeurs, il y a plein de gros noms qui circulent présentement. Mais avec ce que j'ai vu dans le passé, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements de ce côté-là. Un, il n'y a pas beaucoup de temps. Des fois, il reste quasiment une heure à la date limite des échanges. Puis des fois, t'es mieux attendre peut-être au mois de juillet au repêchage, faire ça, t'as plus le temps. Tu sais, des fois, le pas d'échange, c'est la meilleure chance que tu peux faire pour une équipe. Parce que des fois, t'es pressé à faire un échange, puis tu regrettes ton échange par la suite, t'as payé trop ou t'as peut-être pas eu assez en retour de ton joueur. Fait que moi, je m'attends à ce que les équipes qui vont vous pousser à faire des échanges, c'est les équipes qui sont vraiment proches de gagner une Coupe de Stanley, comme Nashville, Winnipeg, des équipes qui sont vraiment là. Puis s'y attendre, ben comme on dit souvent, tu vas rater le train qui passe parce que Et ces équipes-là sont bâties pour gagner là et non dans 2-3 ans ou dans le futur. Là.
Est-ce que toi, tu en as déjà eu des clauses comme ça dans tes contrats?
Oui, moi, mon année, l'année que j'ai signé 5 ans avec les Flyers, là, je me trompe pas, en 2006-2007, j'avais signé 5 ans puis j'avais une clause de non-échange là dans mon contrat. Puis regarde, la dernière année avec les Flyers, il me restait une année de contrat, puis juste avant le repêchage, ben les Flyers m'avaient approché pour voir si j'étais ouvert à ouvrir ma clause de non-échange. Puis tu sais, j'ai pris le pouvoir que j'avais, j'ai dit regardez, je suis prêt à le faire, mais je ne m'en irai pas n'importe où. Puis il y avait une équipe que j'étais prêt à aller, c'est le Lightning de Tampa Bay. Puis on a travaillé avec eux autres, avec les deux équipes pour que l'échange se fasse durant l'été. Puis l'échange s'est fait, puis je suis allé jouer à Tampa Bay la dernière année de mon contrat à Philadelphie. Fait que c'est un pouvoir que le joueur a. T'as travaillé pour, tu l'as eu. Puis moi, je voulais m'en aller pas n'importe où. Puis c'est ça, en même temps, du côté des Flyers, ils ont respecté ma demande, puis on a travaillé ensemble. Tu sais, l'échange s'est pas fait tout de suite, ça a quasiment pris un mois et demi avant que les deux équipes soient d'accord de faire un échange là pour que ça fasse du sens pour les deux équipes.
OK. Simon, dans ta négo là, de ton contrat de 5 ans avec les Flyers, là,
ouais.
Quand tu as obtenu la clause de non-échange, est-ce qu'en échange de ça, les Flyers ont dit ben on va te payer un peu moins ou on va te donner 5 ans au lieu de 6 ans? Ça fait-tu partie de la négo?
Ben oui et non, mais moi je me rappelle que c'était vraiment plus c'était cinq ans, c'était clair et net pour les
okay.
pour les deux parties. C'était vraiment je te dirais à la fin, là, Dan, c'était vraiment une question de principe, là, tu sais, d'être payé à ma juste valeur, tandis que les Flyers restaient un prix X, mais tu sais, c'était vraiment pas grand chose qui nous séparait. C'était vraiment juste une question de principe de mon côté. Puis la clause de non-échange était là depuis le début, puis les Flyers me l'avaient donnée.
OK,
que
parfait.
Ça n'avait pas été quelque chose okay. qui avait été vraiment difficile à avoir là, de mon côté.
Okay. Ouais. Parle-moi des Islanders. Les Islanders m'impressionnent. Hier, c'est drôle, hors des zones, je parlais avec Will, puis je disais à Will, il me semble que Mathieu Barzal, puis Anders Lee, puis Josh Bailey, ils ont deux, trois bons joueurs en attaque. Là. Le jeune Beauvillier est encore trop jeune, mais il me semble que c'est pas une grande équipe de hockey. Pourtant, deux gardiens qui avaient jamais été numéro un avant cette année, Thomas Greiss puis Robin Lanier, avec un entraîneur-chef qui arrive de Washington, qui a gagné la Coupe Stanley, finalement, ils font des miracles, les autres.
Ouais, ben tu sais, on avait parlé, je pense, l'année passée, on choisissait des top 5, Dan, tu te rappelles, les joueurs les plus talentueux de la Ligue nationale à venir, tout. Puis moi, j'avais dit, Barzal m'impressionne beaucoup, qu'est-ce qu'il est capable de faire individuellement sur la glace. Mais cette année, tu sais, est-ce que c'est la coïncidence que Barry Trotz arrive? Il y a des bons points, c'est le meilleur joueur de l'équipe, mais ses statistiques ont baissé un petit peu. Tu sais, l'équipe joue vraiment en équipe. Il n'y a pas de top 20 scoreurs, je me trompe pas, dans les meilleurs scoreurs de la Ligue nationale. Tous les gars se tiennent à 40-50 points, quasiment toute la gang. Tu sais, ça joue vraiment en équipe. Puis, tu sais, je regardais une équipe talentueuse comme les Oilers d'Edmonton qui ont Mick David, premier scoreur quasiment de la Ligue, t'as Drysdale. Mais le reste, après ça, ça descend à du 20-30 points au classement des meilleurs joueurs des Oilers d'Edmonton. J'écoutais Kenneth Scott dire, ben, tu sais, à un moment donné, il va peut-être falloir que les gars sacrifient un peu l'offensive puis commencer à jouer en équipe puis de jouer dans les deux sens de la glace. Puis je regarde les Islanders de New York, c'est quasiment ça que Barry Trotz est en train de faire avec eux autres. L'aurait fait acheter, si on peut dire, son système de jeu, de dire, regardez, j'ai emmené ça à Washington. Oui, Ovechkin a peut-être eu de la misère à s'adapter avec ça au début, mais par la suite, les statistiques sont venues avec Ovechkin, Backstrom, puis Kuznetsov, puis je regarde ça un peu du côté d'Edmonton, des Islanders de New York. Je pense que c'est ça qu'il est en train de faire, de faire à quoi, regardez, on sacrifie un petit peu de l'offensive cette année, mais vous allez voir que l'offensive va revenir. Puis regardez la saison qu'ils ont présentement, c'est la surprise cette année du côté de la Ligue nationale. C'est vraiment exceptionnel. T'as Tavares qui s'en va, leur joueur de concession s'en va à Toronto. Personne ne les voyait être dans les séries. Puis t'as deux gardiens de but qui goalent au-dessus de leur tête. C'est vraiment hot. Puis moi, je pense qu'il faut donner un gros crédit à l'entraîneur, puis okay. Pas juste à Barry Trotz, il a amené son assistant d'entraîneur aussi avec lui, fait que moi je pense que c'est vraiment l'équipe qui a vraiment acheté le concept d'équipe que Barry Trotz a amené. Là.
OK, Simon, dernière question, une réponse rapide en 40 secondes.
Ouais.
Est-ce que tu aurais souhaité qu'Evgeny Malkin soit suspendu plus longtemps qu'un match pour le coup de bâton qu'il a donné?
Ben, un match, je te dirais, là, tu sais, j'ai vu, tu sais, il pogne dessus, il frôle dessus, juste le geste.
Oui, mais l'intention, mais oui, c'est ça.
C'est ça, c'est exactement l'intention. Okay. Moi, j'avais peur qu'il ne suspende pas Dan à côté
de lui.
Qu'il ne l'a peut-être pas pogné. Fait que, juste le fait qu'il l'a suspendu une game, là, c'est Malkin, ça va être un match. Quelqu'un d'autre, probablement, qui aurait eu deux matchs. Mais c'est ça, moi, je pense que la Ligue nationale doit. C'est pas juste à cause qu'il n'ait pas été blessé ou il n'a pas
non.
été coupé.
Exact.
C'est le, il va falloir. Suspendre les gars et aller fouiller dans leur poche pour dire hey, tu peux pas faire ça. Si tu le pognes dans la face ou dans la tête, ça peut être vraiment dangereux. Mais un match, je suis content. Oui, j'aurais peut-être voulu plus de matchs, mais j'avais peur qu'ils ne suspendent pas à cause de Malkin, puis deux, que Raffle des Flyers soit pas blessé plus que ça. Là.
OK, parfait. Gros merci, Simon. Bonne soirée à toi.
Plaisir, Dan. Merci à toi aussi.
Salut bien. Simon Gagné, chroniqueur de l'avant-match, on lui parle chaque mercredi. Lui-même, un ancien de la LNH, il a joué pendant 14 ans.